pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La droite menacée, la droite en période de crise, même si apparemment électoralement elle est majoritaire, la droite en crise est toujours tentée de s'échapper par l'extrême droite. L'option fasciste et xénophobe. Le Front National est un signe de la crise de la droite. Or aujourd'hui, en France et en Europe, il y a globalement une montée de l'extrême droite, des nationalismes, de la xénophobie et l'exploitation qui en est faite par une extrême droite très virulente. Les Français de 1938 ne sont pas les Français de 2024. Alors qu'est-ce qui fait ressembler les deux périodes? C'est la politique fasciste et la politique vis-à-vis des étrangers.
Ça ne vous a pas échappé, en France comme ailleurs, l'époque pue le fascisme. Fascisme incarné chez nous par le Front National, bon, qui se fait désormais appeler Rassemblement, hein. Mais il n'y a pas que le FN ou ce soi-disant RN, il y a aussi les droites traditionnelles, comme hier celle de Hollande ou de Sarkozy, ce qui est pareil, hein, comme aujourd'hui celle de Macron. Même si hier Sarkozy instrumentalisait la mémoire du communiste Guy Môquet, tout comme Macron souille et insulte aujourd'hui la mémoire du communiste Manoukian. Car avec ses larmes de crocodile sur la résistance, la seule vraie résistance, hein, c'est-à-dire la rouge, à laquelle son camp politique n'a pas réellement contribué et a même combattu, Macron nous impose aujourd'hui un sinistre de l'intérieur facho qui se distingue par ses lois xénophobes et ses violentes répressions des mouvements sociaux. Politiques anti-étrangers et antisociales de Darmanin qui pourraient faire penser aux odieux décrets-lois Daladier de 38-39 qui ont fait sombrer la France en dictature avant même l'invasion nazie. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Aujourd'hui avec notre ami André, le prof d'histoire géo, très soucieux André, et qui va pendant une heure à nouveau nous raconter un sombre pan de notre histoire de France qu'on vous a déjà très souvent décrit dans cette émission. En effet, hein, si vous vous rendez sur notre site, polymixetlavoixoff.com, vous trouverez ces dizaines d'émissions que nous avons déjà dédiées à ces lugubres années 30, de la menace fasciste du 6 février 34 au complot anti-républicain ourdi par les industriels et banquiers français qui préparent la défaite militaire volontaire de la France face aux nazis et le putsch de Pétain et de Laval, tout en aidant l'ascension de Mussolini et d'Hitler, ou de la trahison par notre pays des républiques espagnoles et tchécoslovaques, ou du pacte de non-agression que France et Royaume-Uni signent avec Hitler à Munich en 1938. Jusqu'à l'abandon de la Pologne entre les griffes du Troisième Reich, on vous a déjà beaucoup parlé de ces épouvantables années 30 et 40. Et on va aujourd'hui vous en reparler car aujourd'hui, André est encore plus inquiet qu'hier. Or, les années 30 n'ont rien à voir avec les années 2020. Darmanin n'est pas Daladier. Et dans ce premier épisode, on va survoler les différences qui distinguent ces deux époques. Mais au prochain épisode, André dressera les parallèles à faire entre ces deux périodes qui toutes les deux puent la bêtise guerrière, la répression sociale et la haine des étrangers. Salut André.
Salut à tous.
Deux choses qu'on dit régulièrement dans cette émission. D'abord, on s'interroge avec les copains profs d'histoire géo. À quoi sert l'histoire? Sommes-nous capables de tirer les enseignements de cette science humaine? L'actualité démontre régulièrement le contraire. Et deuxième leitmotiv, comparaison n'est pas raison. On pourrait, par exemple, et ce n'est pas la première fois que tu le fais, dresser des parallèles entre les années 30 et aujourd'hui. On va le dire d'entrée de jeu, hein, Darmanin n'est pas Daladier, et pourtant.
C'est sûr que comparaison n'est pas raison, tu as raison. Puis l'histoire ne revient jamais sur elle-même, elle n'est pas cyclique. Hein. Elle peut éventuellement prendre l'aspect d'une spirale, mais enfin il y a de telles différences entre la société française, la situation d'il y a 100 ans et aujourd'hui que bon, faut pas faire de comparaison terme à terme. Bon, mais cependant, il y a quand même des ressemblances qui sont très inquiétantes, qui sont sinistres, entre la période 1930-1940 dont je vais vous parler et la période actuelle. Et ça ne rend pas optimiste. Bon, mais c'est quand même très utile d'évoquer le passé. Alors, est-ce que ça peut servir de leçon à qui d'abord? Au milieu politique? À l'opinion publique? Bon, encore faudrait-il qu'on l'informe réellement, qu'on ne lui raconte pas une fausse histoire, hein, depuis tant d'années. Bon, alors moi, ce dont je vais vous parler, c'est ce qui s'est passé dans le monde et en France entre 1930 en gros et 1940. J'intitule mon exposé Les luttes sociales, les étrangers et la montée et le triomphe du fascisme. Je vous parlerai d'abord du contexte international. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en France à cette époque-là sans évoquer le contexte international, européen, mondial, mais surtout européen évidemment. Je reviendrai ensuite sur la France plus particulièrement. Je terminerai par la phase terminale de cette affreuse période 1939-1940, la marche vers la guerre et l'arrivée du fascisme en France avec le régime de Vichy. Alors d'abord, le contexte international de l'entre-deux-guerres. Ce contexte est marqué dès le départ par, bien sûr, la Grande Guerre, le grand massacre de 14-18 et ses conséquences, et également la révolution bolchevique. Sans cette chose qu'on doit garder à l'esprit en permanence, on ne peut pas comprendre cette période-là. Les bolcheviks ont fini par prendre le pouvoir, non sans mal, il faut attendre 1920-1921 pour qu'ils prennent définitivement le pouvoir, mais ils ont le pouvoir, malgré l'opposition, malgré l'intervention étrangère, malgré une guerre civile épouvantable, etc. Ils prennent le pouvoir dans des conditions assez dramatiques, mais ils prennent le pouvoir. Et les années 30, c'est une période de construction de la société soviétique qui, semble-t-il, a l'air de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on ne garde de cette période-là que Staline, l'affreux Staline, l'horreur, etc., le totalitarisme, etc. Mais à cette époque-là, l'Union soviétique apparaît comme un modèle pour le mouvement ouvrier révolutionnaire international, pour une grande partie de ce mouvement révolutionnaire international. Il est une référence. Et il provoque, parmi les élites, les classes dirigeantes de l'Europe, une trouille, une frayeur, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Une frayeur, ils ont peur pour leur pouvoir. Alors n'imaginez pas que c'est sur la base de l'antitotalitarisme, l'antistalinisme. Non, non, non. On a peur des rouges parce que ils s'emparent des propriétés, ils chassent la bourgeoisie du pouvoir. C'est ça qui fait peur. C'est pas le goulag, c'est pas tout ce qu'on va ensuite après dépeindre après la Seconde Guerre mondiale. Le contexte n'est pas le même. La trouille qu'ont les élites, c'est la trouille qu'il y ait la révolution chez eux.
D'ailleurs, les Allemands ne sont pas passés loin en 1918 avec la révolution spartakiste.
Bien sûr, l'immédiat après-guerre est une période de flambée révolutionnaire en Allemagne et en Italie. Il y a une révolution spartakiste, communiste, en Allemagne, qui est écrasée brutalement et dans le sang, etc., qui laisse place à la République de Weimar, extrêmement fragile. Et en Italie, il y a également des grèves révolutionnaires, occupation d'usines, etc., à Milan, à Turin, etc., et des grèves d'ouvriers agricoles dans les grands domaines de l'Italie centrale. C'est ce contexte-là qui explique la montée du fascisme et du nazisme. La France ne fera pas exception, nous allons le voir. La France va se fasciser également de façon considérable. Et cette fascisation va culminer dans un premier temps par une grande manifestation fasciste le 6 février 1934. Ça ne va pas s'arranger avec la victoire du Front populaire.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu aux places de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Face à la menace fasciste du 6 février 1934, la gauche réagit par la coalition du Front populaire qui remporte les élections de 1936, histoire qu'on vous a aussi beaucoup racontée et que vous pouvez donc réécouter sur notre site, polémiques-et-la-voix-off.com.
La réaction à ce Front populaire va être brutale, on va le voir, rapide. La bourgeoisie va vouloir récupérer une grande partie de ce qu'elle était obligée de lâcher face au mouvement ouvrier. Et grâce à la fascisation et à la trahison d'une partie importante des élites politiques en France, et ça va aller jusqu'à la gauche, il va y avoir cette sinistre période 37-38 jusqu'à 40 qui va aboutir au régime de Vichy. Alors, dès à présent, le régime de Vichy n'est pas apparu comme ça, brutalement, en disant « oui, voilà, le vieux maréchal fait le don de sa personne à la France », enfin, toutes ces conneries qu'on a racontées par la suite. Le régime de Vichy est préparé de longue date par des gens qui savent ce qu'ils font.
les industriels et banquiers français hein, qui, dès les années 20, ici complotent contre la République et ailleurs soutiennent les fascistes italiens et allemands. Plutôt Hitler que le Front populaire. Quand ils ont encore plus peur que d'habitude, car avoir peur c'est dans la nature du bourgeois, les oligarques n'hésitent devant rien, et surtout pas devant la dictature.
La destruction de la République est programmée. Politique de reprise en main, etc. Bon. Et sur le plan international, la France, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, va s'aligner sur une politique munichoise. C'est quoi ? Que peuvent faire les démocraties, la France, l'Angleterre, face à la montée du danger nazi, etc. L'histoire qu'on raconte la plupart du temps, c'est « Oh, on se fait des illusions sur la méchanceté du nazisme, etc. et la diplomatie anglaise et française sont trompées par Hitler, etc. etc. » En réalité, ce qui va se passer, c'est une utilisation de l'Allemagne, et on va favoriser l'Allemagne nazie de façon à la lancer contre l'URSS. Ce qu'on escompte, c'est que la guerre, elle se passe à l'Est, contre l'Union soviétique. Il va y avoir donc une diplomatie anglaise et française. On a laissé faire Hitler, on l'a même favorisé, de façon à ce qu'il fasse la guerre aux soviétiques. Au dernier moment, l'URSS, lassé de proposer une alliance militaire aux Français et aux Anglais, va faire un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Mais avant, il y a le pacte de Munich, qui est une véritable trahison, une véritable alliance de complicité des Français et des Anglais.
Les accords de Munich de 1938 sont un pacte de non-agression que France et Royaume-Uni signent avec les nazis. Donc un an avant le fameux pacte germano-soviétique proposé par les nazis aux soviétiques, un an plus tard en 1939. Magie de l'histoire contemporaine, n'est-ce pas ? On se souvient toujours de 1939 et on oublie 1938.
Bien sûr, bien sûr. Et alors c'est la même élite sociale politique en France qui va téléguider la politique munichoise, qui est déjà une collaboration avec le Reich allemand, et qui va préparer la défaite de 40. Préparer la chute de la République, la défaite de 40 et l'arrivée de Pétain au pouvoir, c'est les mêmes. Et dans la même logique anticommuniste, antisoviétique. Alors bien sûr, ce que nous allons dire est indicible. C'est d'ailleurs bien pourquoi une historiographie bien pensante a mis la main sur le couvercle pendant des années et a délivré pendant 80 ans une histoire beaucoup plus consensuelle que vous, certainement, vous avez apprise. Alors, bien sûr, il y a des historiens qui s'attachent à la soulever le voile et à dire la vérité, bien sûr, mais moi, quand j'ai fait mes études, dans les années 70, certes, j'étais déjà prévenu contre cette historiographie officielle bien pensante. J'étais étudiant communiste, je disposais d'ouvrages, d'essais, d'historiens et de témoins communistes qui avaient été des acteurs de cette époque-là et qui racontaient une histoire tout à fait différente. Bien sûr, j'étais donc prévenu. Mais enfin, ça manquait un peu d'histoire officielle. Le premier ouvrage historique qui rompt avec le ronron de l'historiographie française, c'est un Américain, Paxton. Paxton qui fait un ouvrage sur la France de Vichy, qui pour la première fois dépouille les archives du patronat. Et là, on découvre un Vichy complètement différent de celui qui était présenté par l'historiographie française.
1973, l'historien Robert Paxton bredouille quelques mots à la télé française.
Paxton entre directement dans le débat en rappelant que les lois anti-juives ont été initiées par Pétain et non par les Allemands.
Au moment de la loi du 4 octobre 1940 sur les Juifs, il n'y avait aucune exigence allemande du tout sur ce sujet. C'était une initiative purement française.
Pendant l'occupation, il y a eu aussi un autre historien. Lui n'avait pas accès aux archives, mais il avait bien compris la situation. C'est Marc Bloch et son étrange défaite. Postulat que notre amie l'historienne Annie Lacroix-Risse a repris dans un ouvrage qu'elle a intitulé, elle, « Le choix de la défaite », en reprenant l'analyse de Marc Bloch.
Marc Bloch, le grand Marc Bloch, qui a été fusillé comme résistant avec ses compagnons par les nazis.
Marc Bloch qui n'était pas un rouge, c'était plutôt un bourgeois, spécialiste du Moyen-Âge, un médiéviste.
Non, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à trouver ces événements tout à fait étranges, ou en tout cas particuliers quand même. J'ai mis la main quand même, au cours de mes études, sur des ouvrages de gens qui ont connu cette époque-là, qui ont été des acteurs de cette époque-là. Le premier ouvrage, c'est l'ouvrage de Emmanuel Beau de Loménie. ce rejeton de la petite aristocratie de hobereaux provinciaux était royaliste, et au début d'ailleurs de Vichy, a cru à l'idéologie de Vichy, et donc a été dans ces milieux-là, et donc il a fréquenté ces milieux-là. Et pendant l'occupation, il commence un ouvrage, un énorme ouvrage de 6 volumes, hein. Je crois que ça s'arrête à Guy Mollet dans les années 56-58 en gros, et cet ouvrage s'appelle « La responsabilité des dynasties bourgeoises ». Et alors il démontre que la bourgeoisie est au pouvoir presque sans interruption, à part peut-être la libération, et encore c'est très bref, mais la bourgeoisie est à la manœuvre, au pouvoir, depuis la fin de l'époque napoléonienne. Elle prend le pouvoir à cette époque-là, définitivement, sur l'Ancien Régime, et elle ne quittera jamais le pouvoir.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Il y a un deuxième observateur, très important aussi, c'est un certain Pertinax, c'est un pseudo. Hein. Il va écrire un ouvrage en plusieurs volumes qui s'appelle « les fossoyeurs de la République », et sur la défaite militaire de la France, l'armistice, etc., et la contre-révolution. Le tome 1 s'intéresse à Gamelin, chef d'état-major de l'armée, à Daladier et à Reynaud, qui sont les hommes politiques majeurs de l'époque 38-40. Et le tome 2 à Pétain. Alors l'ouvrage est édité à New York en 1943, parce qu'évidemment, ce qu'il raconte là-dedans est parfaitement inadmissible dans la France de Vichy. Qui est Pertinax? C'est un journaliste, je crois, de l'Écho de Paris, c'est-à-dire d'un grand journal bourgeois, de l'élite sociale, politique en France. Et donc, ce qu'il dit, ce sont des propos qu'il a entendus à table. Ce qu'il rapporte, il est très bien informé. Mais il fait partie de ces gens qui, bien que fréquentant la grande bourgeoisie, trouve que ce qui s'est passé est absolument ignoble, ignoble. Et donc c'est très intéressant, cet ouvrage. Alors bien sûr, le livre de Marc Bloch dont tu viens de parler, « L'étrange défaite », écrite en 1940, il est professeur à la Sorbonne, fusillé, etc. Et il met le doigt sur la grande trahison des élites et leur préparation de la défaite de façon à amener Pétain au pouvoir.
Quand Marc Bloch utilise l'adjectif « étrange »,« étrange défaite », c'est un euphémisme.
Il n'a aucun doute sur la trahison des élites.
Alors lui, il ne dit pas les élites bourgeoises, il dit, je crois, les hommes du Creusot. En gros, le MEDEF de l'époque, quoi.
C'est ça, exactement. Le MEDEF s'appelait pas le MEDEF à l'époque. Les syndicats patronaux, à l'époque, ça s'appelait la Confédération CGPF, hein, du patronat français. Au moins, ils annoncent la couleur, c'est le patronat, quoi. Hein, bon. Un autre homme aussi va écrire un ouvrage qui est très significatif. Il s'appelle Henri de Kérilis. C'est un député de droite, noblesse bretonne. Il est un des rares qui n'a pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il écrit un truc qui s'appelle « Français, voici la vérité », édition de la Maison française, New York, 1942. On voit que tous ces gens se sont barrés et éditent à New York, c'est quand même plus sûr. Sinon, bien, il y a quelques ouvrages d'après la guerre écrits par des communistes. Alors comme c'est des communistes, évidemment, on dit oui, c'est des plaidoyers pro-domo pour eux, etc. En réalité, ils disent la vérité aussi. C'est Jean Bruat, « La vérité sur 1939 », édité par les éditions sociales en 1947. Et Germaine Villard également, de Munich à Vichy, La drôle de guerre, édition sociale, 1969. Mais je suis tombé sur un autre livre de Guy Humain qui s'appelle La vérité sur l'affaire Pétain, édité pour la première fois en 1945 et ensuite en 2012. C'est un universitaire, Guy Humain, Henri Guy Humain, professeur de français à l'université, mais historien remarquable, et qui est témoin de ce qu'il raconte. Il va ensuite après enseigner pendant la guerre à Genève, en Suisse. Mais ce qu'il dit sur Pétain est remarquable, tout à fait remarquable. Il écrit d'ailleurs après la guerre, en 1974, un bouquin que je vous conseille, hein, qui s'appelle « Nationalistes et nationaux, la droite française de 1870 à 1940 ». Là, sur le fascisme français, vous avez tout.
Et pour retrouver l'excellent Henri Guy Humain, vous pouvez taper sur YouTube, hein, par exemple, Henri Guy Humain, et là, vous avez tout, notamment l'affaire Pétain. Travail qui a aussi été réédité en DVD par l'excellente maison Les Mutins de Pangée.
René Benjamin de l'Action française va oser écrire ce qui suit.
Henri Guillemin.
Il paraît que nous étions engagés d'honneur à faire la guerre. Oui, parce qu'on était engagés d'honneur à l'égard de la Pologne. On avait renié notre parole à l'égard de la Tchécoslovaquie, on ne la reniait pas à l'égard de la Pologne. Ah certes, écrit-il, le 3 septembre 1939, je n'éprouvais pas le moindre sentiment d'honneur. L'idée d'une victoire me faisait frémir, virgule. Autant qu'une défaite. Il a été prudent de dire ça. Néanmoins, c'est un Français que vous entendez déclarer ouvertement que l'idée d'une victoire à son pays le faisait frémir. le premier collaborateur de Robert Brasillac à Je suis partout, qui s'appelait Alain Lobreau, écrit dans son journal qu'il publiera en 1945, 3 septembre 1939, « Ce que je souhaite pour mon pays, c'est une guerre courte et désastreuse. » Donc, nous, Français, nous avions en 1939 une partie de notre pays composée des notables et des chefs conservateurs qui ouvertement souhaitaient la défaite de ce pays, leur pays. Les Polonais avaient espéré tenir tête à l'Allemagne en croyant que la France attaquerait. Ils disaient, les Allemands vont être obligés de diviser en deux leurs forces, puisque les Français ont décidé de faire la guerre, donc si ils jettent leurs blindés sur nous, Polonais, ils sont obligés d'en garder une part considérable pour l'attaque que les Français vont lancer. Les Français ne lancent pas d'attaque. Je connais le rapport du général allemand commandant la ligne Siegfried, qui en août 38 avait osé mettre sous les yeux de Hitler une note disant, août 38, si les Français attaquaient, nous ne tiendrions pas 3 semaines.
Cette histoire, quand même, sur le plan universitaire, elle reste marginale longtemps.
J'ai même parlé à la télé, quand même. Hein.
C'est vrai, mais je parle des milieux universitaires officiels, de l'historiographie officielle, la bonne vérité. Il faut dire qu'il y a des enjeux à l'époque. Le Parti communiste reste une puissance politique, sociale importante, et donc il n'est pas bon de dire la vérité, dire que la bourgeoisie a collaboré, a préparé le régime de Vichy à l'avance, hein, a réprimé le mouvement ouvrier, s'est appuyé sur le fascisme, etc., pour bousiller la République et mettre un régime fasciste en France. C'est inavouable en quelque sorte, et longtemps on a mis le couvercle là-dessus. La dernière historienne qui met, le point final à cette polémique, c'est Annie Lacroix-Risse, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris, qui écrit toute une série d'ouvrages sur cette période-là, dont l'ouvrage qui s'appelle « De Munich à Vichy », et qui preuve à l'appui. Son travail, c'est pas tellement l'explication, on voit qu'il y a plein de gens déjà qui ont donné l'explication, mais elle démontre. Elle a deux énormes apports à l'histoire. Le premier, c'est qu'elle fouille des archives qui n'avaient jamais été fouillées, des archives de police.
Et de tout pays.
En particulier en France. Elle a d'ailleurs du mal à se faire donner un certain nombre d'archives, parce qu'on boucle, hein, on verrouille, parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, il y a encore des gens vivants, etc. Un truc comme ça. C'est d'ailleurs assez difficile à dire, parce que tout ce qu'elle dit est référencé. Il y a un appareil de notes. Elle renvoie à des références archivistiques qui prennent des pages et des pages et des pages. Hein. Il y a des notes infrapaginales, après l'ouvrage, etc. Bon. Et c'est pas forcément simple à lire, mais alors il y a tout là-dedans. Et il y a des noms effectivement qui font mal, parce qu'on retrouve les gens à Vichy, puis ensuite sous la 4e République, parfois même sous la 5e République. Des gens qui auraient dû être fusillés. Bon, ça c'est mon opinion. Hein. Bon. Mais en tout cas, cette responsabilité, elle met la main dessus. Et en plus de ça, elle met la main également sur des archives qui l'éclaire sur ce complot, car il y a un complot contre le troisième. Alors, c'est pas un complot avec des gens qui arrivent masqués, etc. C'est un réseau, une sorte de franc-maçonnerie qui se crée dans les années 30. Une véritable franc-maçonnerie, les gens sont numérotés, ils sont inscrits dans un registre, etc. Ils se voient entre eux, c'est un réseau très serré des élites françaises. Hommes du grand patronat, de la finance, de la Banque de France, etc. Mais également hommes politiques, même dirigeants syndicaux, enfin tous des gens qui comptent, etc., qui créent un mouvement appelé la Synarchie. On connaissait l'existence, puisqu'il y a même eu un procès après la guerre en 1945, mais le couvercle a été très vite mis sur ce truc-là, parce qu'il y avait là-dedans des gens qui comptaient en quelque sorte dans la politique française. Elle va tout faire éclater. Alors bien sûr, on va la traiter de complotiste, hein, si vous connaissez le gros argument, « Ah là 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 là, elle est complotiste et tout, elle va chercher dans la boue, etc. » En réalité, ce qu'elle dit est avéré. Disons que la politique qui est menée à partir de 1938 est téléguidée par des gens qu'on retrouvera pour certains dans Vichy, et même ensuite après la guerre. Ce sont des gens extrêmement importants, et c'est la grande bourgeoisie. Et ses alliés, affidés, des commis. Ça fait mal, d'autant que ces gens sont en relation avec des mouvements fascistes. La cagoule et un certain nombre de mouvements d'extrême droite, dont certains sont des mouvements d'extrême droite violents, terroristes, criminels. Ça mouille quand même, hein, quand vous voyez dans les mêmes organisations des gens se fréquenter, certains venant de la Banque de France ou des grandes sociétés multinationales de l'époque, parce qu'il y a déjà des grandes sociétés françaises, des grands trusts, et puis des hommes de main. Je vous renvoie donc à tous les ouvrages de Guillemin et de Madame Lacroix-Risse. Alors, le contexte international, l'irrésistible montée du fascisme en Europe. Je vais dire d'abord quelques mots sur le mot fasciste, le mouvement fasciste, parce que là aussi, Il y a beaucoup de non-dits, où il y a beaucoup de mythes, de légendes.
Annie Lacroix-Riis a une définition très lapidaire pour définir le fascisme, après un peu étayée. C'est le fascisme, c'est un truc qui sert à faire baisser les salaires. Sous-entendu, ou entendu, c'est le visage le plus hideux de la bourgeoisie au pouvoir. Quand le décorum démocratique et républicain ne suffit plus, ces gens-là recourent à la solution fasciste. C'est un instrument de la bourgeoisie.
Mais elle a totalement raison.
Il ne s'agit pas de savoir s'ils ont des chemises brunes, noires, des moustaches ou...
Non, c'est une machine à mettre au pas la classe ouvrière, brutalement, antidémocratiquement. C'est une formule qui est proposée à toutes les élites, à toutes les bourgeoisies d'Europe, extrêmement séduisante. Elle a marché en Italie et en Allemagne.
Annuncio al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. E io aggiunga che si tratta della nostra pace. L'Etiopia è italiana.
Le modèle né en Italie, hein, Mussolini, ancien militant socialiste, plutôt anarcho-syndicaliste d'ailleurs, qui crée un mouvement en 1919, un mouvement dont les groupes prennent le nom de faisceau, faccio, fasciste. C'est les faisceaux des licteurs, des gardes qui marchaient devant les magistrats romains pendant la Rome antique. Les fascistes adorent les symboles. Le faisceau est un symbole fasciste qui d'ailleurs sera repris par le régime de Vichy, sur les pièces de monnaie, etc. Ils adorent les symboles. Presque tous les mouvements fascistes européens auront des symboles. Les phalanges en Espagne, c'était un joug avec des flèches. Un joug pour mener les bœufs. C'est tout un symbole. Ils aiment aussi les uniformes, la parade, les signes de la puissance, etc. Et la brutalité, le surhomme. C'est très parent du suprémacisme d'aujourd'hui. Ce qui est curieux, c'est qu'il semble bien que le noyau dur du discours de l'idéologie fasciste soit né en France. Là, je vous renvoie à une thèse d'un historien israélien, Zev Sternel, qui a fait sa thèse en France, qui se met en contradiction avec René Raymond, le grand maître de l'historiographie en France. Sa thèse, c'est sur Barrès, hein, le nationalisme français. Mais il écrit ensuite après un ouvrage qui s'appelle « La droite révolutionnaire ». Il démontre que ceux qui ont inspiré Mussolini, c'était les Français.
Preuve en est que la France est l'un des berceaux du fascisme, c'est que l'orthographe française fasciste, CHI, a longtemps existé. Et puis on l'a escamoté des dictionnaires en disant « non, c'est une saloperie transalpine ». Donc, hop, exit l'orthographe française de fasciste, CH, hein, on a remplacé SC. L'orthographe était là aussi pour nous démontrer que le fascisme est aussi né en France avec le général Boulanger et tout ça, nous a beaucoup raconté.
Oui, on en a déjà parlé, je serai très bref. Effectivement, le boulangisme dans les années 1880, né du grand scandale de Panama, scandale financier, et puis l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, ça donne au fascisme français cet ultranationalisme de droite réactionnaire, monarchiste en partie, en tout cas anti-parlementaire, anti-républicain et antisémite. Et on retrouve ces traits-là, évidemment, dans le fascisme qui va s'épanouir dans les années 30 en France et à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et ce discours fasciste construit par Mussolini, il est alimenté par des ouvrages de Gustave Le Bon, Georges Sorel, etc. C'est très intéressant sur le discours construit. Pour ça. Par exemple, la lutte des classes n'existe pas. Ça, c'est une chose très importante dans le fascisme. Il n'y a pas lutte entre les classes sociales antagonistes. Ça, c'est un truc marxiste épouvantable à supprimer complètement, etc., à nier complètement, et à remplacer par des systèmes corporatistes qu'on va voir naître en Italie, en Portugal et en France de Vichy, c'est-à-dire les ouvriers et les patrons, la mano et la mano, dans des corporations, etc., voilà, collaboration de classe, etc. Donc, les luttes se font entre nations riches, nations pauvres, et hop, passé Muscade, il n'y a plus de lutte des classes, et donc les communistes et les socialistes sont des gens à abattre, puisqu'ils divisent le peuple, la nation, qui devrait être unie, etc., derrière ses chefs. Le contexte qui a vu naître le fascisme, je l'ai dit, c'est la grande peur des possédants face aux dangers révolutionnaires des classes possédantes en Europe. Les grands propriétaires fonciers, parce qu'on n'imagine pas, mais à l'époque, en Hongrie, en Roumanie, etc., il y a des grands propriétaires, ce sont des sociétés qui sont encore largement aristocratiques, avec des gens qui possèdent des milliers d'hectares, etc., avec des paysans dessus, etc. Donc, des grands propriétaires, mais aussi la grande bourgeoisie. En Italie, il y a les deux. En Italie, il y a des grands bourgeois, le patronat de chez Fiat. Bon, et, mais il y a aussi des grands propriétaires fonciers. Hein, on voit ça très très bien dans ce film magnifique qui s'appelle 1900. Et les milieux financiers. Alors, ces gens, bah, ils ont peur de la révolution. Hein. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place des riches. À la vous vous mettez toujours à la place des ouvriers, mais mettez-vous à la place des riches. Ces gens, ils ont peur pour leur pognon. Comment s'en protéger? Eh bien, le fascisme leur offre une formule.
Un autre film mentionné aussi et à voir, c'est Les Damnés de Visconti. Voilà, c'est pas Hitler avec son livret de caisse d'épargne qui va prendre le pouvoir. On voit très bien que c'est, j'allais dire, l'aristocratie capitaliste allemande et française. C'est la grande bourgeoisie qui finance ces partis fascistes.
Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui, parfois, tente à masquer la réalité, mais peu de temps. Hein, c'est qu'au départ, ces mouvements, aussi bien le fascisme que le nazisme, se donnent des aspects socialistes et révolutionnaires. Hein, si vous lisez le programme du parti fasciste de 1919 en Italie, il y a une lutte contre les accapareurs, contre les profiteurs de guerre, etc. Donc, il y a un discours social, démagogique certes, mais social. Ce programme ne doit pas masquer le fait que les groupes fascistes qui se créent et qui vont être financés par les grands propriétaires vont écraser les socialistes, les communistes, etc., vont assassiner les leaders, vont tabasser les leaders de la gauche. Il s'agit d'écraser le mouvement révolutionnaire ou le mouvement ouvrier revendicatif en quelque sorte. Même chose en Allemagne, le NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. C'est un tout petit parti. Au départ, c'est pas Hitler d'ailleurs qui crée ça. Hitler va simplement rentrer là-dedans et va développer. Et ensuite, après, évidemment, Hitler crée les SA, qui se donnent des airs également anti-aristocratiques, anti-élites, etc., mais qui vont servir à écraser les travailleurs, à écraser le mouvement révolutionnaire. Et assez vite, tu as raison de parler des damnés de Visconti, le parti nazi est financé, comme tous les partis d'extrême droite, financé par le gros pognon. Tous les partis d'extrême droite vont être financés par le gros pognon. Ne faites aucune illusion sur le discours social ou le discours ouvriériste, etc., populiste de ces gens-là. C'est des mouvements qui servent à écraser le mouvement révolutionnaire. Et la bourgeoisie ne se trompe pas. Elle met son pognon là où elle espère avoir des résultats, en quelque sorte. Le fascisme est une machine à écraser le mouvement révolutionnaire et, comme le dit Lacroixiste, à écraser les salaires, évidemment. Il s'agit de baisser les salaires de façon à augmenter le profit du capital, d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, alors, je le répète, je me répète, mais bon, la pédagogie n'est-elle pas l'art de la répétition? Elle se prétend ni droite ni gauche, mais révolutionnaire. Et d'ailleurs, le mot « révolution » est très utilisé par le vichisme, hein, le régime de Vichy, révolution nationale, etc. On reprend les couleurs de la révolution pour écraser la révolution. Ce qui est dans le collimateur, c'est la gauche. Ce que nous disons, c'est le dénominateur commun des mouvements fascistes. Mais bien sûr, il y a une diversité. Il y a des mouvements qui sont antisémites et d'autres non. L'antisémitisme, qui a été celui du fascisme allemand et du fascisme français, et également peut-être du fascisme hongrois, etc., n'existe pas dans tous les mouvements fascistes. Ça ne les empêche pas d'être des mouvements fascistes. Alors il y a dans le fascisme, bien sûr, un aspect xénophobe, puisque c'est un ultranationalisme, un chauvinisme exacerbé. Il faut bien capter l'électorat populaire pas très informé, parce que ça sert aussi à ça, le fascisme. Ça sert à agripper le vote et le soutien d'une partie des ouvriers, des paysans, etc. C'est pour ça que le fascisme se prétend ni de droite ni de gauche et révolutionnaire. C'est parce qu'il permet de capter le soutien politique des victimes du capitalisme, mais qui vont se battre contre la gauche. Et c'est donc tout l'avantage du fascisme, parce qu'évidemment, les partis de droite traditionnels ont du mal à capter. Ils sont tellement marqués par les signes de la bourgeoisie que bon, leur électorat n'est pas très populaire. Tandis que le fascisme, ils font populaire. On peut aussi parler de la xénophobie, du racisme, etc., supériorité de la race. C'est un truc qui revient quand même assez fréquemment, hein. La haine des étrangers. C'est très fort, un ressort, un moteur du fascisme. On pourrait ajouter bien sûr aussi la haine de la démocratie, du Parlement, qu'on retrouve dans la plupart des mouvements d'extrême droite. Mais bien sûr, ce qui est le ciment quand même de ces mouvements, c'est un anticommunisme viscéral, presque pathologique. Il s'agit de tuer du rouge. Alors certains de ces mouvements sont appuyés par l'Église, d'autres non. Mais enfin, généralement, l'Église catholique a quand même été un puissant soutien dans la plupart des pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou la France, un grand soutien. Alors, ce fascisme, ben, il a gagné toute l'Europe. Les idées fascistes ont gagné absolument toute l'Europe, sans exception. Tous les pays ont été peu ou prou touchés par cette idéologie, y compris les trucs les plus inattendus, je sais pas, la Croix-Rouge. Les dirigeants de la Croix-Rouge internationale qui étaient en Suisse pendant la guerre, censés être neutres, mais avaient quand même certaines inclinaisons vers le nazisme. Mon père, qui a été déporté, gardait une rancœur contre la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge ne délivrait pas des colis aux politiques dans les camps de concentration. Et il y a des déclarations des dirigeants de la Croix-Rouge qui laissent à penser que ces gens avaient quelque sympathie à l'égard des nazis.
La Croix-Rouge, c'est un cache-sexe de la soi-disant neutralité suisse qui était tout à fait du côté nazi.
Même en Suède, pays neutre, la Suède fournit de l'acier de très bonne qualité à l'Allemagne en guerre pendant toute la guerre. Mais sinon, le nombre de régimes qui vont s'installer donc avant la Seconde Guerre en Europe, c'est assez extraordinaire. Roumanie, il y a la garde de fer de Codreanu, etc. En Hongrie, les croix fléchées, toujours les symboles. Hein.
Et en Pologne, le brutal régime d'extrême droite et antisémite de Pilsudski, qui n'a pas attendu les nazis pour commettre des pogroms.
Portugal, il s'installe, très légalement d'ailleurs, un régime fasciste avec Salazar, qui va établir l'État nouveau, Estado Novo. C'est d'ailleurs en Portugal que l'on inaugure pour la première fois le système corporatiste, c'est-à-dire qu'on liquide les syndicats ouvriers et on remplace ça par des corporations qui sont des fumisteries. Alors l'Espagne, là c'est plus sérieux parce que l'Espagne va avoir un Front populaire comme la France. La même année, en 1936, victoire du Front populaire en Espagne et début de la guerre civile. Et c'est un putsch militaire mené par le général Franco qui va écraser la République en 3 ans, aidé par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, et sans que la France et l'Angleterre soutiennent ce régime légal, la République espagnole, laisse écraser les républicains espagnols, écraser dans le sang, 1 million de victimes, enfin plus des gens qui vont partir, etc. Bon. Et en Espagne, le mouvement fasciste, c'est la Falange. En Belgique, il y a un mouvement fasciste, les Rexistes. En Angleterre, il y a un parti nazi mené par Oswald Mosley.
D'ailleurs, ils ont eu un roi nazi, hein. Édouard VIII aimait beaucoup le Reich, ainsi que sa compagne. Hein.
Toute une partie de l'aristocratie britannique est, sinon acquise aux idées nazies, en tout cas a des sympathies pour monsieur le chancelier Hitler. Et l'Angleterre va être à la tête de la politique munichoise avec Chamberlain. C'est l'Angleterre qui va laisser les mains libres à Hitler. Il y a d'ailleurs des dignitaires nazis qui sont très anglophiles. Jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, Hitler pense que l'Angleterre va finir par faire un accord. Bref, c'est extrêmement ambigu. Churchill, son arrivée au pouvoir et sa lutte contre l'Allemagne nazie, va masquer ce qu'a été l'Angleterre avant. Et l'Angleterre avant est un pays qui a toutes ses sympathies à l'égard de Hitler. Je ne dis pas que les gens sont nazis, etc. Edward Mosley, ce ne sont que des minorités, bien sûr. Mais l'état d'esprit des élites anglaises incline à soutenir Hitler contre l'URSS. C'est clairement dit, d'ailleurs, dans la presse conservatrice de cette époque. Il suffit de reprendre les numéros du Daily Telegraph, de voir les discours de Halifax, un grand diplomate britannique. L'Angleterre, l'Allemagne nazie, ça ne dérange pas. Tant que ça passe pas certaines limites, vous allez voir, à Munich, l'Angleterre laissait écraser la pauvre Tchécoslovaquie, qui était garantie par les traités de 1919. Bien sûr, c'est en Italie et en Allemagne que les régimes fascistes d'extrême droite sont les mieux connus, etc. En France, c'est une véritable floraison des idées fascistes. Il y a plein de ligues en France. Et il y a des relations suivies entre des hommes politiques de grande importance avec le régime de Mussolini. Ils trouvent ça très bien, en fait, le régime de Mussolini. C'est un régime qui établit l'ordre, qui a mis au pas le Parlement et qui ne laisse pas les grèves, les syndicats, etc. Donc ça inspire énormément d'hommes politiques et tout, et dans les livres de la Croix-Rousse, on voit tous les connivences qui existent, et le financement de mouvements fascistes en France par le régime mussolinien, qui va d'ailleurs envoyer également des tueurs tuer des antifascistes en France. Hein. Alors en France, bon, on a une vieille tradition avec l'Action française de Charles Maurras, les camelots du roi, ils sont très influents dans les universités. L'extrême droite a des positions dans l'université, dans la magistrature, dans l'armée. À l'Académie française, il y a des royalistes, il y a des gens d'extrême droite, etc. Enfin, donc c'est une vieille histoire déjà le fascisme en France. Alors quand évidemment le nazisme apparaît, il y a aussi des mouvements qui vont s'inspirer directement du nazisme. Là aussi c'est un modèle, le modèle allemand, qui séduit énormément une partie des élites en France. Vous vous rendez compte, ce type, vous avez vu comment il les a matés, les cocos, hein ? Ça n'a pas fait de pli. Alors donc, et d'ailleurs, les Allemands ont des officines en France et payent des journaux, payent des hommes politiques. On sait qu'ils sont financés par la propagande allemande, par des gens qui sont en France assez ouvertement. Enfin, bon. Alors bien, ce progrès, bien sûr, est facilité par les crises que traverse la République. La grande manifestation du 6 février 1934 a été provoquée par des scandales financiers. L'affaire Oustric, l'affaire Hanau, etc. Et le dernier en date, le scandale de Stavisky, un aventurier, un escroc. Il se trouve qu'il est juif. Donc tout le monde lui tombe dessus, etc. Et il a des relations avec des hommes politiques très haut placés, du Parti radical au Parlement, etc. Et dans les journalismes, etc. Et donc il semble être un homme protégé, en quelque sorte. Or, cet escroc escroque une quantité de petits épargnants. La crise éclate quand le gouvernement, Chautan, je crois, gouvernement radical, 1934, met à la porte le préfet de police Chiappe, qui est un préfet de police fasciste, enfin du moins qui a des amitiés, des accointances avec le mouvement fasciste. Et là, il y a une grande manifestation, abat les voleurs, etc., qui est préparée par toutes les ligues fascistes en France. Le Parti communiste va participer à cette manifestation, pas du tout sur les mêmes positions évidemment que les fascistes, ils se tapent sur la figure, hein. Mais il y a une grande manifestation, et c'est extrêmement violente, hein. Je crois qu'il y a 12 morts, un truc comme ça, il y a une quantité de blessés invraisemblable, parce que la troupe à l'époque, on n'a pas les CRS, hein, ni les gardes mobiles, on a la police et l'armée, hein. Ils tirent sur les manifestants qui veulent envahir le palais Bourbon. Les fascistes ne prennent pas le pouvoir à cette époque-là, parce qu'ils sont divisés, ils n'ont pas de vrai chef en quelque sorte, et ils n'ont pas préparé la prise du pouvoir. Il n'y a pas eu de leader assez culotté pour ça. Mais en fait, le régime a tremblé. Hein. Le ministère tombe, le président du Conseil démissionne, etc. Mais la République est menacée. Et c'est d'ailleurs en partie une des conséquences de cette manifestation, ça va être le Front populaire. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier et la gauche prennent conscience que la République est en danger, et que les lois sociales également sont en danger, etc. Et donc, il va y avoir, d'abord en 1935, une réunification syndicale. Les deux CGT, l'une influencée par le Parti communiste et l'autre par le Parti socialiste, vont se réunir dans une CGT unique, un grand syndicat. Et en 1936, une double chose, d'abord un grand mouvement social d'occupation d'usines, de grève et d'occupation d'usines, et en même temps des accords politiques entre les trois partis de gauche, le Parti radical, le Parti socialiste et le Parti communiste, font un accord politique de désistement et vont devenir majoritaires au Parlement. Donc c'est les élections législatives de 36, très important ça, parce que pour la première fois, en quelque sorte, la gauche est majoritaire, réellement majoritaire, avec les communistes au Parlement, et les communistes font d'énormes progrès politiques dans toute la couronne parisienne, etc. etc. Donc ça va être les accords Matignon, c'est-à-dire que le mouvement de grève et d'occupation d'usines va aboutir à des accords extrêmement importants sur le plan syndical, et en particulier la semaine de 40 heures, les congés payés, hein, et un certain nombre de lois sur le licenciement, enfin bon, et les comités d'entreprise. Donc c'est un recul du patronat, une grande peur du patronat, encore une grosse peur. Ça y est, les rouges sont là, les bolcheviks vont nous manger la laine sur le dos, etc. Et là, la droite va se ressaisir. La politique munichoise et la marche à la guerre. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est indispensable pour comprendre cette sombre période. Face à la montée de la vague fasciste, hein, qui culmine avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, hein, en janvier 1933, les grandes démocraties occidentales vont adopter une politique de complicité avec Hitler. Alors ça, c'est évidemment difficile à admettre pour l'historiographie officielle, mais pourtant c'est avéré. Hein. On a tous les documents, on a même les déclarations. Même à l'époque, déjà, ça se voyait. Cette politique, elle va culminer avec le pacte de Munich en 1938. Mais avant le pacte de Munich, il y a déjà des signes qui montrent que on baisse sa culotte devant Hitler, parce que Hitler, c'est le meilleur rempart contre le communisme et le bolchevisme.
Deutschland, Sie Heil! Sie Heil! Sie Heil!
Il a une maladie plus grave que l'aérophagie. Paraît que ça lui fait mal, il appelle ça l'espace vital. Quand il s'en rétrécit, alors il pousse des cris, éclate de fureur, il bave que ça fait peur. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau, alors il rentre chez les voisins, il fauche tout sur son chemin. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Un jour il tombera sans plus de phrase sur un beau bec de gaz. Tra la 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 la, sous les roses.
Alors d'abord, quand il arrive au pouvoir, Hitler, pour commencer, il dit bon, on paye plus les réparations de guerre. Déjà, ils avaient été très diminués par des accords financiers avec les banques américaines, mais là, il ne va plus payer du tout les réparations de guerre. D'ailleurs, l'Allemagne ne paiera jamais les réparations de guerre de 1914, qui avaient été prévues par le traité de Versailles. D'ailleurs, tout ce qui va se passer à partir de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est une violation systématique de toutes les dispositions du traité de Versailles. C'est-à-dire que ce traité qui a été signé par les Français, les Anglais et les Allemands, bien sûr, les Allemands vont s'asseoir, enfin Hitler va s'asseoir dessus complètement, va violer des engagements qui sont des engagements extrêmement importants. Et en face de ces violations, les réactions sont nulles. Alors il faut bien comprendre qu'en 1933, lorsque Hitler prend le pouvoir, alors, petite parenthèse, hein, Hitler, lorsqu'il devient chancelier de la République de Weimar en 1933, le parti nazi n'est pas majoritaire au Parlement. Il n'a que 33%, on va dire un tiers des voix. Alors comment est-il arrivé au pouvoir? Eh bien, il faut le complément des voix de la droite allemande. Hein, en gros, les deux grands partis qui vont voter pour l'élection d'Hitler comme chancelier, c'est le Zentrum, le centre Zentrum catholique, qui est la droite catholique allemande, très forte en Bavière et dans l'Allemagne du Sud, et ce qu'on appelle les nationaux à l'époque, les partis de droite nationaliste, qui vont voter pour permettre à Hitler de devenir chancelier. N'oublie pas qu'à l'époque, déjà, le parti communiste a aussi 30% des voix. Hein. Il est même en progression. C'est d'ailleurs pour ça que, affolé par la montée du Parti communiste, la bourgeoisie va financer directement et va provoquer. Et qui nomme Hitler chancelier? C'est le président de la République de Weimar. Qui est-il? C'est le maréchal Hindenburg, un des chefs militaires les plus importants, avec Ludendorff, pendant la guerre 14-18. C'est un homme de droite. C'est la droite conservatrice, Hindenburg. C'est pas un nazi. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'interroge un peu avant ce truc-là, il dit « Jamais !» Je ne nommerai M. Hitler à la chancellerie, je ne le mettrai même pas ministre des postes. C'est ce qu'il a dit. Alors pourquoi tout d'un coup Hitler devient fréquentable? C'est parce que ça urge. Et donc on nomme Hitler. Donc Hitler devient officiellement, très légalement, chancelier en Allemagne. Ensuite, après, il s'arrange avec la démocratie et il établit sa dictature. À partir du moment où il établit son pouvoir, Hitler, il va changer beaucoup de choses. Il va d'abord accélérer le réarmement allemand. Il va s'arranger avec les banquiers pour obtenir des prêts. Et donc, il va faire remarcher la machine industrielle allemande. C'est une grosse industrie, l'industrie allemande. Hein. Elle est très puissante. Elle a des investissements américains très importants dans l'industrie allemande. C'est pour ça aussi que les Américains ne veulent pas que les Français lui réclament des indemnités de guerre, etc. Parce qu'il y a des affaires à faire. Hein. On sait bien que les grandes entreprises ont des intérêts, IBM, General Motors, Ford, etc. Et d'autres dans l'industrie allemande, parce que c'est une industrie extrêmement dynamique, avec de grandes performances, hein, et très moderne. Et elle va se mettre au travail pour faire l'armée hitlérienne, celle qui va envahir l'Europe. Mais en 1933, l'armée allemande, c'est pas grand-chose. Et en 1936, encore, c'est pas grand-chose. On pourrait dire, par exemple, qu'en 1938, les chars allemands qui ont envahi l'Autriche au moment de l'Anschluss, ils sont tous en panne. Ce n'est qu'en 1940, réellement, que l'Allemagne est prête, parce qu'il lui faut aussi former les militaires, il lui faut du temps. Pendant ce temps de préparation, il n'y a aucune réaction des Français. En 1936, par exemple, l'armée allemande réoccupe la Rhénanie, la rive gauche du Rhin. En 1919, au moment des traités, on interdit à l'Allemagne d'avoir le moindre militaire dans cette zone. Elle est neutralisée. Il y a des troupes d'ailleurs françaises qui occupent cette région de la rive gauche du Rhin, entre le Rhin et la France, la Belgique, etc. En 1936, Hitler décide de réarmer militairement, mais il n'en a pas les moyens, et d'ailleurs ses chefs d'état-major lui disent « Oh, doucement, si jamais les autres réagissent, nous, on lâche tout. » Si, on peut toujours refaire de l'histoire fiction, si la France avait réagi à cette époque-là, l'armée allemande aurait reflué, etc., et ça aurait été un échec politique pour Hitler considérable. Mais il sait que, les Anglais n'étant pas d'accord, les Français vont se dégonfler. Effectivement, les Français se dégonflent. Pendant la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole, là, c'est l'aviation allemande qui va faire ses essais sur la population espagnole, républicaine, Pays Basque, Guernica, enfin, etc. C'est-à-dire que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont soutenir le putsch de Franco, puissamment. Hein. On peut dire que la victoire de Franco lui doit beaucoup à cette aide et également à la non-intervention de la France et de l'Angleterre ne bouge pas, y compris le gouvernement de Front Populaire. Les communistes, bien sûr, disent « il faut intervenir, il faut intervenir, il faut envoyer une aide militaire, etc. » Aucune aide militaire de la France. Les socialistes de Blum, ils vont rien faire non plus. Que disent-ils? Ils disent « les radicaux sont contre en France, les plus modérés du front de gauche, ils sont contre, ils sont alignés sur la diplomatie anglaise, et donc il n'est pas question pour eux d'aider les rouges en Espagne. Alors, on ne veut pas rompre l'unité du Front Populaire, alors on ne fait rien. Donc la France n'aidera pas. Les seules aides au régime républicain, ce sont les volontaires des brigades internationales, mais ce n'est pas une aide officielle. Ce sont des militants antifascistes de l'Europe entière hein, qui vont aller se battre là-bas. Puis il y a aussi Malraux, et puis on fait passer quelques armes en contrebande comme ça, mais c'est pas assez pour soutenir la République contre le putsch de Franco qui est puissamment aidé. C'est en 38 que là, les choses sont visibles. Enfin, pour les gens qui veulent le voir, quoi.
Il n'y a pas besoin d'aller fouiller très profondément dans les archives, il suffit de prendre n'importe quel manuel d'histoire. Donc, je résume. Les soi-disant démocraties occidentales, 1. Laissent l'Allemagne se réarmer. 2. Réoccuper la Rhénanie. Soutenir le putschiste fasciste Franco. Et puis il y a aussi l'Anschluss. On laisse l'Allemagne se réunifier avec l'Autriche jusqu'à cette énième trahison qui est cette fois-ci pas l'abandon de la République espagnole, mais l'abandon de la République de Tchécoslovaquie. En gros, c'est ça les accords de Munich. Hein. On dit voilà, écoutez, faites donc main basse sur la République tchécoslovaque. Nous, on se planque derrière la ligne Maginot et le Channel. Mais s'il vous plaît, monsieur Hitler, l'Est, c'est par là.
C'est très clair. On laisse les mains libres à Hitler pour son expansion. Cette expansion, elle est prévue. Mein Kampf est un livre qui a été diffusé et traduit. Les milieux dirigeants occidentaux ne peuvent pas ignorer quels sont les desseins de Hitler. C'est d'abord de réaliser la Grande Allemagne, Grosse Deutschland, hein, suivant les plans du pan-germanisme qui existait avant la guerre 14-18, hein, qui est une idéologie expansionniste et impérialiste. Et puis également de s'étendre, d'étendre l'espace vital de l'Allemagne, Lebensraum, vers l'Est. Les grandes plaines de Pologne, d'Ukraine, etc., de Russie et tout. Il s'agit d'asservir ces peuples-là, quoi, ou de les vassaliser, etc., puis de réaliser la grande Allemagne. Hein, bon. Donc ces plans ne sont pas inconnus. Monsieur Chamberlain, premier ministre anglais, ne peut ignorer ce truc-là. Donc si on est bienveillant à l'aide de Hitler, c'est parce qu'on espère bien qu'effectivement l'expansion va se faire à l'Est, hein, que donc ensuite après on verra, éventuellement on pourra tirer les marrons du feu si c'est nécessaire, mais d'abord, la guerre va se faire à l'Est.
Prenez un parapluie pour danser la chamberlaine, puis au bras d'un de vos amis, vous le suspendez sans peine.
À cet instant, le copain vous confie sa cavalière,
puis à son tour, il s'en va faire. C'est pas très compliqué, il ne faut pas que ça vous surprenne. Il vous suffit d'essayer pour bien savoir la danser. Si vous avez bien compris, pas besoin qu'on vous l'apprenne. Pour danser la chamberlaine, il ne vaut qu'un parapluie. Vraiment, c'est bien charmant, la chamberlaine. Faites votre choix, soyez adroit. 1, 2, 3.
Pendant cette période-là, évidemment, les soviétiques ne cesseront jamais de réclamer une alliance militaire avec l'Angleterre et la France. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque des soviétiques s'appelle Litvinov. On sait très très bien ce qui s'est passé parce qu'on a les souvenirs de Litvinov, mais aussi on a les souvenirs de Maïski.
L'ambassadeur au Royaume-Uni.
Les soviétiques ne se font pas d'illusions, mais ils espèrent quand même qu'il va y avoir, comme en 14-18, un double front qui gênerait énormément Hitler dans sa politique d'expansion. Donc ils vont réclamer, mais ils ne veulent pas un simple accord, comme ils veulent un accord militaire. Et dans cet accord militaire, évidemment, entre l'Europe occidentale et l'URSS, il y a la Pologne. Il faut donc l'accord, en quelque sorte, de la Pologne dans cet accord militaire. Et la Pologne refusera toujours. Et c'est d'ailleurs derrière ce refus de la Pologne que se cacheront les Anglais et les Français pour dire, vous voyez, on ne peut pas faire un gars parce que vous allez ensuite après passer sur le dos des Polonais et nous, on ne veut pas. Donc, il n'y aura pas d'accord militaire. Alors, Munich, les Soviétiques ne sont pas conviés à Munich. Hein. On ne se commet pas avec les Soviets, etc. Et donc, ils ne sont pas invités. On fait un accord avec Hitler, sans l'accord, bien sûr, des Soviétiques. Les Soviétiques réclament un accord militaire. Ils vont réclamer jusqu'à l'été 1939. On a les preuves. Hein. Ils réclament. Et c'est à chaque fois des réponses dilatoires. Non, on peut pas, non, c'est pas possible, etc. Non. On espère donc que la guerre va commencer à l'Est. Et là, pas de chance, les Soviétiques
vont accepter le pacte de non-agression que les nazis leur proposent. C'est pas une initiative soviétique, le pacte germano-soviétique. Suggestion de Ribbentrop. Hitler trouve ça génial, il dit allons-y. En désespoir de cause, les Soviétiques finissent par accepter, mais personne n'est dupe. Et d'ailleurs, même sur le terrain, en France, moi j'ai interviewé des gars qui avaient 14 ans à l'époque, qui avaient des grands frères à la CGT. Même un gamin de 14 ans un peu éclairé savait très bien qu'il ne s'agissait qu'une réponse du berger à la bergère, en fait. Les gens un peu lucides n'étaient absolument pas dupes, qu'il s'agissait juste de, pour Staline, de gagner du temps, en fait.
C'est clair, de la part de Staline, il y a un réalisme. Il défend les intérêts de l'Union soviétique. Il n'est pas là pour défendre les intérêts de la France ou de l'Angleterre, hein, qui veulent lui faire des enfants dans le dos en plus. Alors donc, bon, c'est évident. Et d'ailleurs, effectivement, ça va permettre quand même à l'URSS de ne pas être écrasé complètement en juin 1941. Ça s'est passé avec un peu de justesse quand même, parce que ça va permettre à l'URSS d'avoir 2 ans pour se préparer, d'autant qu'ils sont réorganisés l'armée, il y a eu des purges dans l'état-major soviétique, etc., avec l'affaire Tukhachevski. Bon, c'est indispensable. Les Soviétiques ne peuvent pas rentrer comme ça dans le conflit. D'autant que les Russes savent bien que s'ils ne font pas cet accord-là, les Anglais et les Français les laisseront se dépatouiller. Ils vont pas. En fait, les Anglais et les Français ne sont rentrés en guerre qu'après cet accord, qui bien sûr les fait chier. Enfin, bon, je veux dire, tu t'imagines la gueule des dirigeants occidentaux, enfin anglais et français, après cet accord. Très, très mauvaise affaire. Alors, ils vont quand même en profiter en France pour interdire le Parti communiste français, incarcérer des élus communistes et commencer la chasse aux communistes. Bon, ils vont déclarer donc la guerre. Pourquoi pour la Pologne alors qu'on n'a pas déclaré la guerre pour la Tchécoslovaquie? C'est évident. C'est parce que là, cette fois-ci, la guerre va commencer à l'Ouest.
André, on va finir là le premier volet de cette lugubre histoire en rappelant une chose peu sue, c'est que finalement, la France entre dans un état de dictature dès 1938 avec les décrets-lois d'Aladier. On est déjà en dictature, les communistes et autres sont déjà pourchassés, embastillés. Hein. Sarkozy a beaucoup pleuré sur le petit Guy Moquet, mais enfin, le papa avait été foutu en tôle. Et marteler cette chose, donc, que la France est dans un état de dictature dès 38, avant même que la première botte de la Wehrmacht ne foule le sol français.
Bien sûr, il y a déjà un pré-fascisme en France. Un pré-vichisme en France, très marqué par un gouvernement, alors nous allons en reparler et développer là-dessus, un gouvernement radical, c'était de gauche, si on reprend les définitions, la gauche, c'est comme aujourd'hui avec le PS, la gauche, hein. En fait cette politique est une politique réactionnaire, et tout à fait à la botte du patronat, elle est menée par Daladier.
Comme disait ton père, hein, les radicaux, les radis roses, moitié blanc, moitié rose, mais toujours à côté de l'assiette au beurre.
Un opportunisme politique absolument épouvantable. On est très très loin des radicaux de 1880 ou un truc comme ça. Historiquement, c'est le premier parti politique en France, le Parti radical. Je crois que c'est 1901 ou un truc comme ça qui est créé le Parti radical. Mais l'idéologie radicale, elle remonte à Gambetta, hein, en gros. Hein. Effectivement, tu as raison de souligner que c'est parallèle. Hein. La politique munichoise et la politique réactionnaire en France, tout ça est fait par les mêmes gens. C'est ce que nous allons développer dans la partie suivante.
Et au prochain épisode, nous retrouverons donc la France de 1939, déjà en état de dictature. Et après avoir aujourd'hui évoqué ce qui distingue les années 30 des années 2020, nous en viendrons avec André à survoler les parallèles à faire entre ces deux périodes. Émission à réécouter avec des dizaines d'autres sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.